C'est un problème qui est assez généralisé, qui est lié à des situations de conflits armés internationaux ou non internationaux, ou à des situations de violence interne dans un pays. Et c'est dans ces situations-là qu'on voit soit des disparitions à cause des déplacements ou délibérées, soit des disparitions forcées, comme une arme qui est utilisée pour faire disparaître une personne pour des raisons politiques, militaires ou autres.
Dans le rapport, vous parlez d'absence de volonté politique. Vous pouvez nous donner un exemple représentatif ?
Aujourd'hui, par exemple, une des mesures concrètes qui pourrait être prise par les gouvernements, c'est de signer, ratifier et mettre en œuvre la Convention internationale contre les disparitions forcées. 60 États ont signé cette convention. Elle a été adoptée par consensus l'année dernière. C'est une étape importante. Donc ça, c'est un point positif concret. Maintenant, de manière générale, quand on regarde les différents pays, il y a des difficultés sur le terrain. Prenons l'Irak, par exemple, aujourd'hui. En Irak, on a une situation qui fait qu'il y a différentes strates de conflits. Il y a le conflit Iran-Irak de 80 à 88. Il y a eu les deux guerres du Golfe. Il y a aujourd'hui la question de l'insécurité sur place. Aujourd'hui, il y a des gens qui ont encore des personnes portées disparues de la guerre Iran-Irak, mais qui aussi voient des proches disparaître aujourd'hui. Un exemple concret, c'est une femme qui a appris qu'elle pouvait récupérer la dépouille de son fils dans la morgue de Bagdad. Elle y va avec son mari et en cours de route, son mari est kidnappé. Elle rentre à la maison avec deux personnes portées disparues. C'est un drame pour beaucoup de familles. C'est une souffrance qui peut durer des années. Parfois, on a des cas où il y a une résolution. Très souvent, c'est aussi des cas dramatiques parce que pendant des années, les familles n'ont aucune information sur le sort de leurs proches.
Comment les familles des disparus sont-elles soutenues aujourd'hui ?
Alors, ça dépend des pays. En Amérique latine, par exemple, elles se sont organisées. Mais elles ont décidé de s'organiser en associations qui sont devenues des associations de lobby qui mettent la pression et qui influent sur les décisions qui sont prises par les gouvernements. Un exemple concret aussi sur ce que les familles peuvent faire, c'est mettre la pression aussi sur les gouvernements pour qu'il y ait l'instauration de ce qu'on appelle des bureaux d'information. C'est-à-dire que quand il y a un conflit, il est important qu'il y ait un bureau qui collecte toutes les informations sur les soldats qui sont retrouvés morts, où sont leurs corps, qu'est-ce qui s'est passé. En Irak, par exemple, il y avait un bureau d'information. Bon, après la guerre, les archives ont été perdues, c'est des questions compliquées. Mais le CICR demande à ce qu'il y ait l'établissement de ces bureaux pour qu'après, les gens puissent retrouver la trace. Soit la trace de la personne qui est peut-être détenue quelque part, soit l'information sur le sort pour pouvoir faire le deuil et tourner la page. C'est très difficile quand on ne peut pas faire le deuil.
Dans le rapport du CICR, on insiste beaucoup sur la prévention. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi ça consisterait, cette prévention à la disparition des personnes ?
Le respect du droit humanitaire international, le respect des dispositions qui se trouvent dans les législations nationales des pays. Il y a des mesures concrètes comme par exemple s'assurer que tous les soldats pendant un conflit armé disposent d'une carte d'identité pour que le jour où, si à Dieu ne plaise, ils meurent sur le champ de bataille, qu'on puisse les identifier. Si on regarde aujourd'hui à Bagdad, la morgue de Bagdad a reçu dans les derniers mois à peu près 20 000 dépouilles, dont 50% sont inidentifiables. Donc impossible de les ramener à leur famille pour que les familles puissent les enterrer. C'est des questions comme ça qui sont, aujourd'hui concrètement on les a en Irak, mais elles, ce sont les mêmes questions qui se posent dans tous les pays qui ont vécu des situations de conflits armés ou de violences internes.